La planèse du jazz, Laurent et Pascal Verdoux.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Tout d'abord, nous vous souhaitons cette fois-ci la bonne année, puisque la dernière fois, nous étions encore en 2016. Et figurez-vous que la planète du jazz a été gâtée pendant les fêtes, puisque nous est parvenu le deuxième volume de la publication des fameuses archives du musée de Harlem dont nous vous avons parlé il y a quelque temps.
Oui, on vous avait parlé la dernière fois de cet homme-là qui avait complètement révolutionné la technique et qui, finalement, on peut dire, est l'inventeur du 33 tours gravé.
Oui, pas du micro-sillon, mais effectivement, il a trouvé moyen de graver en 33 tours de grandes galettes pour les émissions de radio à rediffuser. Et, chose extraordinaire, il les a conservées au lieu qu'elles soient balancées après usage. Ce qui nous a valu, il y a quelque temps, l'émission que nous avons présentée sur la première publication du musée de Harlem, qui s'est rendu acquéreur de toutes ces archives. Et maintenant, donc, les fêtes nous apportent le deuxième volume, qui est consacré à l'orchestre de Count Basie.
Avant de vous parler de Basie, on va vous faire la genèse de Basie, chef d'orchestre.
Au départ, il y avait un pianiste qui courait un peu le cacheton, à droite à gauche, qui commençait à être un peu connu. Et puis, il y avait un orchestre qui avait comme centre d'activité Kansas City, qui était dirigé par Benny Moten, et qui a engagé le pianiste en question, qui s'appelait William Basie, bientôt connu sous le nom de Count Basie. Et donc, Basie, c'était un type qui s'en faisait pas trop, qui faisait sa musique, qui était content de la vie et qui était tout à fait heureux d'être dans l'orchestre de Benny Moten, qui tournait très bien.
Et puis, là, il y a quand même un os
sérieux,
puisque Benny Moten doit subir une opération.
Et quelle opération? Se faire enlever les amygdales, vous vous rendez compte?
Pas grand-chose, théoriquement.
Hein?
Ben oui, mais ça s'est mal passé.
Ça s'est très mal passé, et l'orchestre qui partait en tournée et à qui le chef avait dit « Allez-y, je vous rattrape demain », a appris par un télégramme que le chef ne les rattraperait jamais puisqu'il était mort sur le billard.
Oui.
D'une hémorragie carabinée. Alors tout a un peu volé en éclats, et Count Basie est retourné à Kansas City, a été dans un endroit qui lui plaisait bien, a commencé à y jouer du piano, et de fil en aiguille, a repêché dans les musiciens locaux, et en particulier ceux avec qui il avait joué dans l'orchestre Benny Moten, sa petite sélection.
Et ça va devenir, au départ, le petit orchestre de Count Basie, qui, comme vous le savez, deviendra plus tard un grand orchestre.
Et là, l'articulation, le moment décisif, se passe au Reno Club de Kansas City, avec un orchestre de 9 unités, 3 saxes, 3 trompettes, 3 rythmes. Et la radio s'installe au Reno Club et diffuse de temps en temps les programmes musicaux sur la station locale, qui est relayée sur le plan national. Vous savez, à cette époque-là, dans les années 30, les radios sont très actives et se refilent leurs programmes. On peut écouter de la musique et des programmes 24 heures sur 24. Et ça, c'est la chance de Count Basie, parce que sa musique est excellente et elle est entendue par un organisateur très très investi dans le jazz qui s'appelle John Hammond. Et avant de vous raconter la suite, nous allons vous donner un échantillon de la meilleure séance, selon Count Basie, qui le raconte dans ses mémoires, de la meilleure séance d'enregistrement de l'orchestre Benny Moten. Vous entendrez deux morceaux.
Moten Swing.
Et Lafayette.
Eh oui, Lafayette est toujours là.
Lafayette, nous voici. Moten Swing est un morceau important car il deviendra, pour le souvenir, le premier indicatif de l'orchestre de Count Basie. Tu sais, l'indicatif, c'est le morceau qu'on appelle en américain « theme song », c'est le morceau par lequel l'orchestre commence toujours ses prestations.
Thank you.
Hammond, fou de jazz, richissime et actif. Et là, il va mettre en selle cet orchestre.
Oui, parce que John Hammond, ce n'est pas du tout un amateur d'art qui fait un peu le mécène pour le fun.
Oui, de loin.
Lui, c'est un type qui non seulement est fou de jazz, mais c'est un homme d'affaires avisé, c'est un organisateur hors pair et c'est un négociateur exceptionnel. Et donc, ayant entendu Bézi, il vient le voir à Kansas City, il lui dit « Je peux faire quelque chose pour vous, enfin de fil en aiguille, on étoffe un peu l'orchestre. » Et voilà Bézi avec le pied à l'étrier, car John Hammond lui organise une tournée qui va le mener à Chicago en particulier. Et il lui prépare un somptueux contrat d'enregistrement avec la maison Brunswick, qui à l'époque, il faut le souligner, est une maison d'origine allemande au point de vue du financement.
Comme son nom l'indique.
Mais Bézi, qui est un gros naïf et qui n'était pas bien informé de la démarche, a de son côté signé un contrat en or massif pour la compagnie, avec la maison Decca. Exorbitant, le contrat. C'est-à-dire que c'est à peu près tout juste si l'orchestre ne travaille pas à l'œil.
Donc, horrible dilemme.
Et quand John Hammond dit à Bézi, comment vous avez signé un contrat où il n'y avait même pas de royalties, Bézi répond, c'est quoi ça des royalties? Alors, bien entendu, l'enregistrement est organisé, alors on va le faire sous un faux nom, et pas avec tout l'orchestre. Il y a juste la rythmique et deux participants, c'est tout. Mais ce sont quand même les premiers disques de Count Basie à son initiative. Et donc, c'est historique, et nous allons vous passer deux morceaux qui viennent de cette séance-là, et qui est publiée sous le nom de John N. Smith Incorporated.
Jones and Smith, il prenait pas beaucoup de risques, il doit y en avoir à peu près 300 000 en Amérique.
Oh là! Sans doute bien plus que ça encore. Vous entendrez donc
Shoeshine Swing
et Lady Be Good. Lady Be Good, morceau célèbre de George Gershwin, qui deviendra un classique de la musique de cette époque. Thank you. Mais ça va quand même pas tout seul, parce que les engagements que John Hammond a trouvés pour l'orchestre de Bézi sont des engagements où on joue pour la danse, pour de grands repas, de cérémonies, pour des choses comme ça. Et la musique de cet orchestre, manifestement, déroute complètement les gens. Alors, on tâche de trouver à la jouer un peu moins fort, à arrondir un peu les angles, et finalement, de trouver des endroits où elle est plus à sa place. Toujours est-il que l'orchestre vient à New York, et que là commence la vraie ascension de l'orchestre de Count Basie, qui va jouer à l'Apollo, qui va jouer au Savoy, qui va jouer dans pas mal d'endroits extrêmement célèbres de l'époque, avec des batailles d'orchestre, desquelles il sort la tête haute. Parce qu'à l'époque, il y a des batailles d'orchestre, des vrais de vrais, avec des commentaires dans les journaux dont on dirait que c'est un combat de boxe, quoi. C'est assez étonnant. Et puis, on atterrit au Famous Door, qui est une petite boîte de la 52e rue, qui est un endroit minuscule, et Bézi est assez étonné par ce choix, et d'ailleurs, il ne va pas être le seul. Et dans ses mémoires, voilà comment il raconte l'affaire.
Peu de temps après la venue dans l'orchestre de Dickie Wells, nous avons eu l'affaire la plus importante de notre carrière. Nous avons été engagés au Famous Door. C'est John Hammond et Willard Alexander qui avaient déniché dans la ville moyenne, au 66 de la 52e rue Ouest, ce petit club dirigé par Jerry Brooks et Al Felshin. Et quand ils ont commencé à envisager d'y mettre une grande formation, Jerry et Al ont dit qu'ils n'avaient jamais entendu une proposition aussi ridicule. Et c'était sans doute une idée assez ridicule pour un petit établissement de ce genre qui n'avait jamais présenté que des chanteurs et des chanteuses accompagnés par des petites formations. ainsi que des petits numéros de scène. Mais John et Willard se sont accrochés et ils ont fini par nous faire engager. Je ne sais pas comment ils s'y sont pris, mais je crois qu'une des clauses du contrat stipulait que John et Willard contribuerait à l'installation de l'air conditionné. Je ne peux pas le garantir, mais quoi qu'il en soit, le système de conditionnement a été installé. Et c'est ce qui a permis au directeur de faire entrer dans cette petite boîte suffisamment de clients pour amortir un orchestre de 14 musiciens plus 2 vocalistes. Il fallait se serrer comme des sardines pour s'installer sur le podium qui était encore plus petit que celui du Reno à Kansas City. C'est dire. L'autre partie du marché que John et Willard avaient passé avec Hall et Jerry est le facteur qui nous a vraiment lancés. John et Willard avaient obtenu de CBS Radio l'installation d'un câble qui permettrait de nous programmer sur les ondes plusieurs soirées par semaine.
Et qui avons-nous vu arriver pour planter les micros et assurer les enregistrements ? Monsieur Bill Savory. Et c'est ça que vous allez entendre.
C'était ce qui pouvait arriver de mieux à l'orchestre. Parce que nous étions à l'antenne à de très bonnes heures. Et la radio, à l'époque, était très importante. Les gens venaient nous dire comment ils nous avaient entendus dans leur auto en roulant dans Central Park. Et les chauffeurs des taxis collectifs de Chicago nous écoutaient sur leur autoradio dans South Parkway, ainsi qu'ils nous l'ont souvent dit quand nous sommes allés là-bas.
Le fameux Door, c'était effectivement un endroit minuscule. Je crois me souvenir que Buckleton avait raconté que ça faisait à peu près, alors converti en mètres, 5 mètres et un peu plus de large sur 15 mètres ou 18 mètres de long. Ceux qui nous écoutent par internet, un petit peu loin du Cantal et peut-être à Paris, qui se souviennent de la cave du Hot Club de France rue Pavée, vont tomber sur les mêmes dimensions.
Imaginez simplement un grand salon, sans plus, où on a mis 16 musiciens maximum.
Résultat, comme disait Buck, les trompettes qui étaient au troisième rang et un petit peu surélevées avaient la tête au ras du plafond. Quant au public, il était assis littéralement sur les genoux des musiciens. Et Madeleine Gauthier, qui a été au Famous Door, nous a raconté qu'on était pratiquement dans la situation de toucher les pupitres en étendant le bras quand on était assis sur le devant du public. À la même époque, Hugues Panassier et Madeleine Gauthier, justement, étaient à New York. C'était pour les enregistrements des fameuses Panassier Sessions avec Sidney Bechet, Mesro, Lanier. Et ils sont allés au Famous Door. Et les impressions de Panassier sont intéressantes à évoquer également.
Donc c'est Hugues Panassier qui parle. Me voici au Famous Door depuis près de 2 heures. Surprise de constater qu'un orchestre de 14 musiciens joue dans une salle minuscule sans assourdir les gens. Je suis assis tout près des musiciens. Count Basie est étonnant à son piano. Par moments, il a l'air de se désintéresser complètement de son orchestre, s'épongeant le front d'une main, tandis qu'il plaque quelques accords épatants de l'autre. À côté de moi, Milton pousse des « yes, yes » et des « ah, ah » de plaisir. Dickie Wells me fait de temps en temps un sourire. Pendant une pause, Herschel Evans vient me parler et me demande d'écouter attentivement son arrangement de « Doggy Round » que l'orchestre va jouer, m'expliquant qu'au disque, on a été obligé de supprimer les meilleurs passages, l'interprétation étant trop longue. L'orchestre me produit une très forte impression.
Voilà, eh bien, maintenant, il n'y a plus qu'à écouter et nous allons vous laisser au Famous Door, devant un enregistrement d'une grande qualité, face à un orchestre qui joue totalement décontracté, où on entend très bien la rythmique et en particulier le guitariste, qu'on entend souvent pas beaucoup, où les solistes ont une verve et une décontraction absolument totale.
Vous allez entendre d'abord Honeysuckle Rose,
arrangement de Fletcher Anderson, puis I Ain't Got Nobody,
puis Rosetta,
et puis 3 arrangements d'Eddie Durham, coup sur coup, Blue and Sentimental,
Every Tub,
Good Morning Blues, chanté par Jimmy Rushing. Et puis un arrangement de Fletcher Anderson, là on aura 2 versions successives parce que naturellement Bill Savory est venu plusieurs soirs de suite. Le morceau s'appelle Limehouse Blues.
Vous allez entendre la première version, puis la deuxième du même morceau.
Et puis un autre arrangement de Fletcher, Roseland Shuffle. Après quoi, 2 versions de Texas Shuffle, arrangées par Herschel Evans. On n'entendra pas Doggin' Around, mais on entendra Texas Shuffle. Termineront cette émission. Il faut attirer l'attention de nos auditeurs sur la qualité des solistes qu'on distingue très bien les uns des autres. En particulier, les 2 saxo-ténors de style très opposé. Herschel Evans, qui joue un petit peu avec des coups de gueule. Et Lester Young, qui joue comme s'il était en train de regarder le paysage, en fait, un petit peu. Et puis 2 trompettistes également. Un qui joue plutôt en force, qui est Harry Edison, qui est d'ailleurs le Benjamin de l'orchestre à l'époque, et l'autre, plus volubile, qui est Buck Clayton. Et tous ces gens-là, ils sont très jeunes. La moyenne d'âge est de 29 ans. Ils sont ensemble depuis déjà 3 ans. Donc, on est dans le tempérament, dans la puissance et l'élan d'une équipe de rugby.
Oui, au fond, ils jouent un peu comme à la maison.
Tonight the Conch really got one really waiting for us. He's got piano up on all fours, you can see, and we're going to ride high and wide and handsome with Honeysuckle Rose.
Thank you. nobody, nobody cares for me. Why, I'm sad and lonely. Won't somebody take a chance with me? I sing love songs all of the time. If you say you see a baby girl of mine,
his orchestra have not prepared this next number for you, because it's a jam session featuring Messrs. Evans, Young, Clayton, and Jones in Rosetta, a Count Basie jam session. Thank you. Blue and sentimental.
attendance, a little meeting of famous door swings put on by Count Basie and his orchestra from the famous door in New York City. This is the Columbia Broadcasting System.
Don't think Thank you.
It's time to say goodnight to Count Basie and his orchestra. Their music having reached you from the famous door on 52nd Street in New York City. This is the Columbia Broadcasting System.
C'était la planète du jazz.
À la planète prochaine.